Chapitre 71. Se plaindre même des orties. Thomas rentre de l'hôpital, un nœud sous les côtes. Il peine à respirer. Il gare sa voiture dans la cour et part directement à pied. Il va se ressourcer dans la forêt, là où la vie grouille dans le houppier, le long des troncs et des tiges d'herbe dans le sol. Il se souvient des yeux de Simon, quand il lui a dit que dans une poignée de terre de forêt, il y avait plus d'organismes vivants que d'humains sur la planète, et qu'on pouvait trouver sur un même arbre plus de 2000 animaux de 250 espèces différentes. Ce regard d'abord suspicieux, tu me racontes des blagues, puis cette sorte d'émerveillement d'imaginer une telle effervescence à si petite échelle. C'est elle que Thomas vient puiser ce soir au-dessus du village. Le bouillonnement, le tumulte, l'agitation, l'énergie. Il accélère le pas pour monter jusqu'au château du Frankenbourg, regarder le soleil se coucher. Il veut y voir le signe d'un lendemain meilleur. Il est vite essoufflé. La fatigue accumulée depuis des mois. Son corps solide, mis à rude épreuve, n'a jamais vraiment flanché, mais il n'est pas à l'abri. Il s'en fiche. Il le pousse dans ses derniers retranchements. Ce n'est rien, une telle côte à gravir. Il est en bonne santé, il a toutes ses cellules, ses plaquettes, ses globules, les rouges, les blancs. Il peut bien malmener ses muscles brûlants, juste pour montrer qu'on est résistant dans la famille. C'est pas une putain de leucémie qui va nous terrasser. Il arrive au sommet avec sa colère en bandoulière et le souffle égaré en chemin. Exténué mais soulagé. Le soleil n'est pas couché. Les premières couleurs s'installent dans les nuages, que le vent a oubliés sur l'horizon montagneux. Les Vosges sont belles ce soir. Et dire que Simon n'en voit rien. Il n'a que leurs souvenirs dans un coin de sa tête et sur les croquis accrochés. Thomas sort son carnet à dessin et son crayon. Il s'assoit au sommet d'un large mur de pierre et commence à crayonner en cherchant encore sa pleine respiration. Il mettra les couleurs à la maison et la portera demain pour partager ce moment avec son petit frère. Partager la beauté du monde, celle qui ne s'efface pas dans l'adversité. Elle est même sublimée pour qui veut la voir comme arme de consolation massive. Il finit son dessin quasiment dans le noir, distingue tout juste son crayon et sa main sous la lueur d'un fin quartier de lune. Ses yeux se sont habitués à l'obscurité, comme Simon s'est habitué à l'hôpital. Le jeune homme range son carnet, enfile son sac à dos sur son t-shirt, encore mouillé et devenu froid, descend prudemment du mur en sautant dans un buisson d'ortie. Il sent les piqûres presque instantanément. Détail futile. Les grosses épreuves apprennent la relativité, celle qui manque à tous ces gens désagréables ou exigeants, qui râlent pour trois fois rien, envoient l'huissier au premier faux pas avec le mépris en sus. Finalement, relativiser donne de la légèreté à l'existence. Un comble d'être obligé d'en passer par le pire pour le comprendre. Il pense soudain à Anaëlle en redescendant le sentier escarpé. Elle la connaît, cette relativité. Elle la pratique chaque jour. Elle aussi a une épreuve à encaisser. Différente, mais tout aussi formatrice. Il aurait bien envie de l'appeler, là, dans le noir, pour lui parler de son frère, de la mauvaise nouvelle, de la suite des événements pour entendre sa voix qui se voudrait consolante, comme le jour où il lui a tout expliqué. Se plaindre même des orties, car elle sait que ça fait du bien de sentir du soutien pour les petites misères. Elle lui dirait que ça va passer, qu'elle déteste ça aussi, qu'il ne faut surtout pas gratter, qu'il faut mettre du froid sur les jambes ou un peu de vinaigre blanc et ne pas y penser. On peut mettre du froid sur la leucémie. Mais Anaëlle en porte déjà bien assez avec son handicap pour ne pas lui ajouter la maladie du petit frère d'un parfait inconnu. Un simple sourire lui ferait pourtant du bien ce soir. C'est peut-être la première fois que Thomas sent à ce point le poids de la solitude. Il se pelotonnerait volontiers dans des bras bienveillants. Mais il est seul, dans le noir, au milieu des arbres centenaires qui le regardent passer sans bouger. Il se met alors à leur hurler l'injustice, à leur cracher ses peurs, à leur envoyer à la figure la paix qu'ils incarnent, parce qu'à cet instant précis, elle est bien trop provocante. C'est la guerre au fond de lui. Il se sent petit, insignifiant, inutile, un grain de poussière dans la marche du monde. Il s'est cru fort pourtant et solide. Jusque-là, la puissance du chevalier, le courage du soldat. Mais dans cette bataille-là, il n'est rien. Il crie ce rien qui prend toute la place. Il hurle et ça résonne tout autour. Les chevreuils doivent s'être arrêtés, la tête dressée pour saisir d'où vient le danger. Mais le danger n'est pas dans la forêt ce soir. Il est dans les eaux de Simon. Et personne n'y peut rien. Ni les hêtres, ni les sangliers, ni la forêt entière. Ni Thomas. Était-ce cela, s'attendre au pire? Entendre le professeur annoncer que la greffe n'a pas pris et qu'il faudra recommencer? Tout. Les chimiothérapies préparatoires, les effets secondaires douloureux, l'espoir, l'attente. Prolonger ce temps d'enfermement et les allers-retours et les jours qui ne font que s'enchaîner, et mettre de l'entrain pour ne pas trop sombrer. Il pense à ses travaux qu'il ne pourra pas finir, au banquier qui commence à râler, à Clotilde qui va encore devoir accuser le coup. De quoi grignoter un peu plus sa fragilité. Il ne restera pas grand-chose du petit bout de femme si ça continue. Elle se vide de ses forces à vouloir en donner. Mais si ça n'a pas pris à la première tentative, pourquoi ça prendrait à la deuxième? Et puis non, chasser ses idées pessimistes, se cantonner à l'instant. Une chose après l'autre, dans le travail, à l'hôpital, dormir, manger, se lever, partir, revenir, ne pas penser, sauf à Simon, lui envoyer du bon. Un donneur est déjà trouvé, encore plus compatible. Il ne faut qu'attendre le délai minimum nécessaire à la préparation d'une greffe pour l'un et pour l'autre. Alors chacun autour de Simon essayera de repartir à l'assaut du sommet avec son sac à dos plein d'espoir. Y mettre des cailloux de chagrin pèserait trop lourd. Ils ont tous compris ça maintenant. Pas le choix. On y va. Comment? On ne sait pas trop. Jusqu'où? Non plus. Mais on y va. Simon y va, alors tout le monde suit. Maman t'a dit qu'il y aura une autre greffe? Lui a demandé Thomas en début de soirée. Non, pas encore. Mais je le sais, je suis pas idiot. Je les entends parler, les médecins. Mais je suis costaud, a-t-il ajouté en faisant le geste de Popeye et en se tâtant le biceps. Le jeune homme lui a alors parlé de cet arbre, le tremble, qui n'en a rien à faire des chevreuils ou des bovins qui viennent le grignoter, parce que son système racinaire poursuit inlassablement sa croissance sous la terre, lançant de jeunes pousses à côté, sans cesse et sans cesse, au point d'en faire un buisson de plus en plus impénétrable, jusqu'à ce qu'il soit tranquille pour pousser enfin en tant qu'arbre au milieu des rejets. Il y a en Amérique du Nord un tremble de plus de 40 000 troncs sur plus de 40 hectares, et il est vieux de plusieurs milliers d'années. Mais c'est une forêt! Non, c'est un seul et unique individu. Je ne serai jamais aussi vieux. On ne battra jamais les arbres. Le plus vieux est en Tasmanie, et il a 43 000 ans, soit l'époque de l'homme de Néandertal. Il a vu grandir l'humanité. Comme toi, tu m'as aussi vu grandir. Oui, tu es une humanité à toi tout seul. Et ce n'est pas fini. Un jour, tu seras plus grand que moi. C'est comme ça, j'en suis sûre. Même avec ma leucémie? Lui faire confiance. Une plante ne se laisse jamais mourir. Tant qu'elle a une chance de survie, elle garde l'espoir. Simon a cette force-là, la force de ses racines, de ses cellules saines, de son envie de pousser et de refaire des feuilles dès que sa sève fonctionnera. L'âme d'un arbre.